Mes chers amis, cette fête me rappelle un devoir qu'on faisait souvent comme jeune élève à l'école primaire, là où je suis né, proche de Noël. Il nous fallait toujours fabriquer des crèches en papier de carton. Alors, il fallait les découper, faire des personnages de la crèche. Et moi, j'étais maladroit en découpant les choses. Je demandais toujours à mes sœurs de le faire pour moi. Voyez-vous. Et après, on les amenait à l'école, et puis dans notre salle de classe, on les plaçait aux fenêtres, jusqu'au moment de Noël, jusqu'au moment de l'épiphanie. Et quand je compare aux crèches que nous faisons ici, une chose me frappe, m'a frappé depuis toujours, c'est que par là où je suis grandi, quand nous montions nos crèches, ou quand nous les fabriquions, tous les personnages de la crèche étaient compris. Alors ici, il y a une autre approche, c'est que avant Noël, on ne dépose pas l'enfant Jésus dans la crèche. Et on le dépose à Noël, ce qui est bien, c'est une autre approche. La même chose aussi pour la fête des rois, c'est à ce moment-là qu'à la crèche, comme vous avez constaté chez nous, nous avons mis les rois depuis hier. Mais avant, il n'y avait pas le roi, voyez-vous. Donc c'est une autre approche. Par chez nous, là, on bombardait la crèche de tous les personnages, voilà, dès le premier jour. Mais alors là, avec cette approche, je me suis dit, mais en fait, ce qu'on voudrait nous dire aujourd'hui, c'est que le point focal de la célébration de la messe se trouve sur les mages. C'est que les mages nous apportent un enseignement aujourd'hui. Ils nous sont présentés comme des modèles dans notre pèlerinage spirituel. J'aime beaucoup la manière que les pères de l'Église considéraient les mages. Les pères de l'Église, ce sont les évêques, en fait, qui ont vécu du 1er siècle au 8e, 9e siècle. Alors, en général, ces évêques-là considéraient les mages comme des chercheurs de Dieu. C'est que ces personnes-là n'appartenaient pas au peuple de la première alliance. Les mages sont venus des nations, des cultures, des peuples qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament, qui ne connaissaient rien des prophètes, qui n'avaient pas entendu parler de Noé et d'Abraham. Et pourtant, leur intelligence, leur raison, leur cœur les a fait découvrir Dieu. Dieu s'est ouvert à eux. Par quel moyen? Par le moyen de l'étoile. L'étoile était l'appel, était la lumière que Dieu leur proposait pour les attirer à lui. Il y avait comme une correspondance entre le cœur des mages et ce que proposait l'étoile. Les mages ont compris que le Seigneur les appelait à aller l'adorer. Voilà, ils se sont mis en route, ils se sont mis en marche pour aller adorer l'enfant de Bethléem. Mais en fait, c'est Dieu-là qui les a attirés, c'était ce même Dieu-là qui leur a donné la puissance, la force de se mettre en marche, de résister contre les fatigues de la route, contre le découragement, et même quand l'étoile a disparu, ils sont restés persévérants jusqu'au bout. Pour dire, mes amis, qu'en fait, Dieu nous précède en tout. C'est Dieu-là qui a donné le désir aux mages d'aller l'adorer. C'est le même Dieu qui leur a donné le courage, la force de se mettre en marche. Dieu les avait déjà précédés à Bethléem. Dieu les accompagnait sur leur chemin. Dieu était toujours avec eux. Voyez-vous, le Dieu que les mages nous présentent aujourd'hui est un Dieu qui nous précède en tout, est un Dieu qui nous a aimés le premier, est un Dieu qui prend toujours l'initiative. À chaque dimanche, quand nous nous décidons de la maison, nous disons, nous allons partir à Saint-Gabriel pour aller à la messe, enfin nous faisons comme les mages. Nous mettons en pèlerinage pour venir adorer l'enfant. Quand nous venons à l'église, c'est pour adorer Dieu, c'est pour cela que nous le faisons. Et ne vous détrompez pas, Dieu nous précède toujours à notre église. Afin qu'on se mette à genoux, que nous ouvre notre cœur, Dieu sait déjà de quoi on veut lui parler. Dieu, c'est lui qui nous attire, qui nous guide sur nos chemins pour venir le rencontrer dans notre église, dans notre célébration eucharistique. Dieu nous précède en tout. Voyez-vous, quand nous sommes invités chez des personnes, eh bien, le couvert est prêt. La quantité de la nourriture correspond au nombre de personnes. Et ce qu'on fait, et c'est magnifique. Mais à supposer que maintenant, après la messe, vous allez chez vos amis dire, je viens manger avec vous. Je vais vous trouver étrange. Voyez-vous. Mais en fait, avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Dieu nous attend toujours. On peut aller chez Dieu à n'importe quel moment. Le couvert est toujours là. Parce que lui nous précède continuellement. Dieu est toujours devant de nous. Qu'on essaie d'aller à la confesse, le moment où on se déplace pour aller se confesser, Dieu nous pardonne déjà. L'amour de Dieu est toujours là pour nous. Et Dieu nous embrasse pour cela. Voyez-vous à ce sujet-là, le Seigneur Jésus nous disait une chose formidable dans l'Évangile. Il dit, personne ne vient à moi s'il n'est attiré par mon Père. Et vous vous rappelez, je vous ai souvent parlé de Saint-Augustin pour dire que lui, finalement, à un moment donné dans sa vie, il allait en dehors de lui, il allait à l'extérieur pour chercher Dieu. Il cherchait la signification de sa vie, donner sens à sa vie. Finalement, il a découvert qu'il allait loin, en dehors de lui, et que Dieu était au-dedans de lui. Et Pascal, un penseur français, vous vous rappelez, il dit aussi une chose formidable en parlant de Dieu. Il dit, en fait, Seigneur, si je te cherche aujourd'hui, c'est parce que je t'ai déjà trouvé. C'est ce qui nous arrive. Mais quand nous venons à l'église, en fait, nous sommes des chercheurs, comme les mages. Nous cherchons Dieu. Nous voulons entrer en communion avec lui. Nous voulons nous parler. Nous voulons lui parler. Nous voulons prier. Mais cette recherche-là, c'est parce que nous l'avons déjà trouvé. C'est parce que nous avons déjà la foi. C'est parce que nous avons l'espérance. C'est parce que nous avons l'amour. Et Dieu, en fait, nous a précédés déjà. Et il nous parle déjà. Et il nous attire vers lui. C'est lui qui nous donne cette foi, c'est lui qui nous donne ce courage, cette persévérance d'aller vers lui. Donc, Dieu, mes amis, nous précède en tout. Il y a Saint Pierre Chrysologe qui dit aussi une chose extraordinaire, parlant des mages. Il dit, les mages avaient une grande stupeur. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu l'enfant de Bethléem, alors ils se sont rendus compte que le ciel était sur la terre et que la terre était dans le ciel, que Dieu était dans l'homme et que l'homme était dans Dieu, que Dieu que la terre ne pouvait pas contenir, que l'univers ne pouvait pas contenir, ce Dieu-là se trouvait dans l'enfant. C'est ça l'étonnement auquel nous sommes appelés aussi aujourd'hui, que le Dieu extraordinaire est un Dieu qui entre en nous, qui veut habiter en nous, qui veut vivre avec nous. Voilà ce qui a transformé les mages, parce qu'eux s'attendaient à un roi de leur type. Ils s'attendaient à trouver un grand palais où ils allaient être reçus. Ils s'attendaient à trouver une garde de sécurité de fer. Ils s'attendaient à trouver des armées. Du tout, quand ils sont arrivés, c'était un roi dans une mangeoire. Quand ils sont arrivés, c'est étonné, c'était un roi, un bébé. Quand ils sont arrivés, ils sont étonnés qu'il n'y avait personne pour garder cet enfant-là, pour sécuriser cet enfant-là. Alors, c'est un autre type, c'est un autre style. Alors, ils ont été transformés de l'intérieur parce qu'au retour, ils prennent un autre chemin et ils vont annoncer ces dieux-là qu'ils ont découverts. Mes amis, quand nous venons le dimanche pour adorer l'enfant de Bethléem, il y a une transformation qui s'établit en nous. Le Seigneur nous invite à entrer dans son style. Ce n'est pas le style des bagarres, ce n'est pas le style de la compétition, ce n'est pas le style des autorités, ce n'est pas le style de l'imposition, d'imposer son moi, mais c'est un style d'humilité, c'est une mesure d'accueil, c'est une mesure de compassion, c'est une mesure de pardon. Voilà ce qui jaillit de l'enfant de Bethléem. Voyez-vous, en 2005, il y a eu les jeux, pas les jeux, mais les journées de la jeunesse qui se passaient en Cologne. Et puis c'est en Allemagne, comme vous le savez. À ce moment-là, c'était Benoît XVI qui venait d'être élu évêque de Rome. Il était élu en avril. Et voilà que du 16 au 21 août 2005, il devait aller en Allemagne pour célébrer la journée, les journées de la jeunesse, les journées mondiales de la jeunesse. Et le thème de ces journées-là tournait autour de Roi Mage. C'était « Nous sommes venus l'adorer ». Et l'église, la cathédrale de Cologne, est une cathédrale, selon la tradition, qui a conservé les reliques des trois mages. Balthazar, Melchior et Gaspard. Alors, au Moyen Âge, même avant cela, c'était une des églises, un des lieux le plus visité par la chrétienté. À côté de Jérusalem, Rome, Saint-Jacques de Compostelle, il y avait l'église de Cologne, la cathédrale de Cologne. Pourquoi? Parce que les gens, les pèlerins, allaient là-bas pour répondre à l'appel des mages, pour suivre l'étoile des mages, faire la même chose que les mages. C'est ainsi que, quand Benoît XVI a reçu les jeunes à Cologne, il leur a rappelé l'histoire des mages. Il leur a dit qu'en fait, nous sommes venus de toutes les nations de la terre pour suivre l'étoile des mages. L'étoile des mages qui nous conduit aujourd'hui à Cologne. Cette étoile-là nous rappelle que l'enfant de Bethléem était dans sa simplicité et qu'il s'est révélé aux nations. Mais cet enfant de Bethléem, disait-il, aujourd'hui nous l'adorons dans l'Eucharistie, dans l'hostie blanche, une hostie simple, du pain simple. Voilà que le Dieu puissant, le Dieu simple, le Dieu qui nous a créés, voilà qu'il accepte de s'exprimer, de se manifester dans l'Eucharistie, dans du pain simple. Voilà l'humilité de Dieu. Voilà Dieu qui se donne à la manière qu'il s'est donné à la crèche. Mais maintenant, il y a toujours une transformation qui s'est faite. Quand on accepte ce Dieu-là, quand on vient l'adorer, alors il nous invite à faire de même que lui. À entrer dans cette voie, je disais, de la simplicité, cette voie de la compassion, cette voie du pardon. Voyez-vous, dernièrement, vous le savez très bien que le pape François a été élu personnalité de l'année par le magazine Time des États-Unis. C'est une chose extraordinaire, parce que lui, il a été élu en mars, et voilà qu'à la fin de l'année, il est nommé personnalité de l'année, au cours de 9 mois seulement. C'est étonnant. Alors, j'ai parcouru des commentaires, on a interviewé la personne, une des personnes responsables du magazine Time. Il disait, mais comment ça se fait que vous avez choisi le pape François? Et la personne de dire, écoutez, il a fait des choses extraordinaires depuis qu'il est là. Tout le monde parle de lui dans tous les milieux, dans toutes les discussions planétaires, son nom revient. Voyez-vous, cet homme-là, disait la personne, eh bien, il a fait sortir la papauté des palais. Il a conduit, il a mis la papauté dans la rue. Il dit, cet homme-là, le pape, voyez-vous, ce qu'il a fait dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que il a mis au centre de l'Église la pauvreté, les personnes démunies, les personnes dans le besoin. Il n'y a personne qui a fait comme lui. Il dit, ce pape-là, si vous vous rappelez de l'interview qu'il a donnée à la revue Jésuite, eh bien, ce pape-là dit, l'Église doit être compatissante envers les homosexuels. L'Église doit être compatissante envers les divorcés. Cet homme-là dit que l'Église doit être compatissante envers les personnes qui ont vécu dans l'avortement. L'Église doit accompagner les personnes qui souffrent dans leur complexité de la vie. L'Église doit les acheminer. Il a dit, c'est extraordinaire. C'est qu'a dit, pas personne d'autre n'a parlé dans ce sens-là avant lui. Et voilà pourquoi nous le mettons, personnalité de l'année. Et l'année avant, c'était le président américain Obama, parce qu'il avait regagné l'élection pour la deuxième fois. Alors, il a été interviewé sur le pape. Alors, lui dit à peu près ceci, il dit, écoutez, c'est un homme extraordinaire. Ce qui le frappe, lui, le président américain, c'est de voir que ce pape-là a une empathie extraordinaire envers les pauvres, les démunis, les oubliés. Il dit, ce pape-là, eh bien, ce qu'il cherche d'abord, c'est se rapprocher des gens avant de les repousser. Il dit, ce pape-là, il cherche toujours du bien. C'est qu'il y a du bien dans chacun. Il va chercher le bien dans chacun. Il dit, hey, il est extraordinaire. Mes amis, je crois que le pape François est une étoile pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous. Personnellement, je pense qu'il a poussé au pied de la crèche. Parce que l'enfant de Bethléem, c'est un enfant nu. C'est Dieu nu. Dieu simple, les bras ouverts, qui s'approche de nous et qui vient nous apprendre le chemin de l'humilité, le chemin de la compassion, le chemin du don. Comme les rois mages ont ouvert leur coffret pour offrir de l'or, de la myrrhe, de l'encens, nous nous ouvrons notre coffret, le coffret de notre cœur, pour offrir l'or de notre vie, l'ami de nous-mêmes est l'ensemble de nos jours. Ce que nous allons faire durant cette célébration. Alors nous allons nous unir pour demander que le Seigneur nous aide. Regardez, le pape a choisi le nom de François en se référant à François d'Assise. Et dans l'histoire, ce que François d'Assise a fait, c'est qu'il a rappelé l'Église d'alors, qui s'était perdue dans l'opulence, il a rappelé l'Église d'alors de revenir au centre, de revenir au message du cœur, le message central du christianisme qui est le Christ lui-même. Alors François a dit notre intention, il ne faut pas perdre l'état dans les fla-fla-fla-fla, il faut revenir au Christ. C'est celui notre message, c'est celui notre sauveur, c'est celui qui nous invite à nous transformer, à être des signes, des étoiles pour les autres dans la vie. Alors nous allons demander au Seigneur qu'il vienne nous habiter et qu'en l'adorant aujourd'hui, nous soyons transformés et qu'en étant transformés, nous devenions des lumières pour nos frères et nos sœurs qui les conduisent à lui. Amen.